avec la participation de José Maria Lima de Freitas, artiste peintre, enseignant à l'école d'art de l'AD et consultant au ministère de la Culture du Portugal, et Gilbert Durand, fondateur du Centre de recherche sur l'imaginaire, et Dr Honoris Causa à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Aujourd'hui, le miracle des roses.
Tout ce thème d'une royauté perdue, d'un roi caché promis à un autre glorieux, édifié à un empire d'abondance et de paix, ont trouvé une fortune bien particulière dans l'histoire du Portugal. Quels seront les cheminements historiques qui ont permis que le Portugal se soit senti à ce point investi, cette mission d'incarner, à la face de l'Europe entière, la promesse de ce cinquième empire, l'Ima de Freitas?
Oui, ça vient de loin parce que le Portugal, par sa position géographique, est dans l'extrémité de l'Europe. Et le dernier point, c'est le cours du soleil. Alors, le soleil du christianisme se lève à l'Orient, n'est-ce pas, dans le peuple juif. Il atteint son midi à Rome, n'est-ce pas, dans l'apogée du christianisme. Et donc, à la fin de ce cycle, ça a marqué par l'extrême occident, qui est justement le Portugal. Je pense que c'est un peu Saint-Bernard qui a posé cette question de vente politique, si je peux dire, n'est-ce pas, en désignant le Portugal comme un pays important pour l'ordre du temple, dont il a été le créateur, le parrain. Et il ne faut pas oublier non plus que la première dynastie du Portugal indépendante du royaume portugais en tant que tel est établie toujours dans l'histoire comme dans la dynastie bourguignonne,
comme Saint-Bernard.
Bien sûr. Et on a même dit que Alphonse, premier roi du Portugal, Alphonse Bourguignon, n'est-ce pas, était dans la famille de Saint-Bernard, n'est-ce pas, évidemment, ça on rajoute toujours un peu. Or, la bataille décisive qui a marqué, mettons, l'établissement définitif du royaume du Portugal face aux Arabes, face aux Maures, c'est une grande bataille qui se déroulait dans un endroit qui s'appelle Ourique. Et le roi du Portugal, qui était en minorité, son armée était plus petite que les cinq armées d'apparemment qui étaient là. Il prit une queue avant la bataille, et là il y a une vision, le miracle d'Ori, où Dieu lui promet l'éternité de son royaume, la continuité jusqu'au bout du temps de son royaume, et la mission, une mission glorieuse dans ce pays qui serait l'assise du christianisme futur, donc promis à unifier le monde en quelque sorte. Ce miracle, qui beaucoup d'historiens bien sûr considèrent comme apocryphe, n'est pas créé par les moines cisterciens, qui étaient venus justement de Bourgogne la plupart, bien, ça constitue en quelque sorte une assise mythique pour propicier ce futur développement du Saint-Esprit, de l'espérance du Cinquième Empire, etc. Il faut aussi dire que les armes du Portugal après Ourique marquent le Portugal comme le centre du monde par un quinquennaire. Il y a des châteaux autour, mais il y a au centre cinq circonférences, si on peut dire, qui sont en quinconce, et la cinquième est au centre, n'est-ce pas? Donc, c'est un symbole très grand, centre du monde spirituel. Donc, on a là déjà une sorte de prédestination mythique qui a été, bien sûr, utilisée plus tard. N'oublions pas non plus et les rois du Portugal pendant la première dynastie et beaucoup dans la deuxième aussi, étaient non seulement des Templiers, mais plus tard aussi des franciscains. Donc le franciscanisme est venu.
Dès ses origines, le Portugal s'était désigné comme terre de Sainte Marie, comme une terre de consolation chargée d'attendre et de préparer la venue du paraclet. La Lusitanie, l'ancien nom du Portugal, serait littéralement, selon l'écrit de Guillaume Postel, la terre de lumière. Et lorsque le culte royal du Saint-Esprit fut établi comme tel, en dehors de l'Église, à l'initiative du roi Denis et de sa femme Isabelle, en réponse à l'écroulement de l'ordre du temps, les miracles continuent de jouer un rôle très important. Un siècle après la bataille d'Ourique, la reine Isabelle va réaliser un miracle fameux, le miracle des roses, qui reprend tout le thème alchimique et paraclétique de la transmutation du grossier en subtil, ici du pain en fleurs, le thème de la métamorphose des éléments, tel que nous les rencontrions déjà chez saint François d'Assise, Imad Freitas.
Cette idée de transformation de métamorphose qui est sous-jacente ou qui est liée intimement au culte de Saint-Esprit est tellement forte que la reine Isabelle, celle qui a institué, mettons officiellement et royalement, la fête du culte de Saint-Esprit au Portugal au XIIIe siècle, elle a été sanctifiée beaucoup plus tard et elle est connue par un certain nombre de miracles. Ils sont représentés dans la peinture portugaise, espagnole et ailleurs. Elle porte du pain aux pauvres et son mari ne voulait pas qu'elle soit si généreuse avec les pauvres et la surprend. Que portes-tu là? Elle répond des roses. Et en effet, c'est des roses qui comptent. Il y a un autre miracle qui est moins connu, qui est moins représenté, qui fait donc la boucle, c'est que pour payer la construction de la première église, du Saint-Esprit, dont elle a fait rêver, elle a eu la vision dans un rêve, elle va avec des maçons et des constructeurs à l'endroit qu'elle a vu, et les fondations sont déjà ouvertes, un miracle. Et puis ensuite, pour payer ses ouvriers, elle leur distribue des roses qui avaient été apportées par une fille éblouissante et inconnue qui disparaît ainsi. Les ouvriers, je pense qu'ils n'étaient pas très contents avec cette paye honorante, mais pas substantiel, mais à la tombée du jour, il retrouve que les roses se sont transformées en pièces d'or. Alors nous avons là donc une sorte de circonférence totale, n'est-ce pas? Le pain qui se transforme en rose, les roses qui se transforment en or. Tu as acheté du pain, bien sûr. Alors, ça fait une boucle totale. Et ça, vraiment, on est en plein dans le cycle de la métamorphose. Je voudrais souligner l'aspect alchimique, n'est-ce pas? On voit déjà que les éducateurs d'Isabelle étaient des alchimistes. Ce miracle des roses sont vraiment des miracles alchimiques, n'est-ce pas, tout le temps.
On a dit en effet que parmi les éducateurs d'Isabelle dans la cour d'Aragon, s'étaient trouvés les philosophes et alchimistes Arnaud de Villeneuve et Raymond Lulle. Et l'on sait que la rose apparaissait souvent dans la poétique médiévale comme une représentation de la grâce divine en œuvre et dans la tradition alchimique comme une expression des pouvoirs de contagion et d'amplification liés à la pierre philosophale. Rappelons-nous également comment, durant les offices religieux, la vocation chantée au Saint-Esprit pouvait être accompagnée d'une pluie de pétales de roses en même temps que d'un envol de colombes. Et ce sont 1000 colombes, d'ailleurs 1000 colombes peintes, dont on voit encore aujourd'hui la représentation dans la chapelle du Saint-Esprit du Palais Royal de Sintra. On voit ainsi, par la force de ces symboles, comment la reine Isabelle, en instituant le culte du Paraclet, allait redonner un élan formidable à un pays dont la sensibilité et l'imaginaire étaient tout pénétrés de chevalerie hermétique et des idéaux templiers, en lui proposant un nouveau départ, un nouveau souffle, oserait-on dire, pour des réalisations à la fois spirituelles et concrètes, du maître-étage.
Justement, le mari d'Isabelle qui instituait le culte du Saint-Esprit était grand maître du temple, c'était d'ailleurs un roi extraordinaire, et c'est lui qui a préparé aussi les découvertes, en quelque sorte, avec une prémonition. Le poète Pessoa, dont on parlera à la fin, je pense, cycle, le décrit comme le semeur des caravelles futures. Parce qu'il a semé des pinèdes très grands dans le bois à servir après avec les caravelles. Alors, cette idée se développe en particulier à l'intérieur du culte du Saint-Esprit, bien sûr, qui prône un berger et un troupeau. Le monde constituera un seul troupeau. Il y aura une seule religion, un seul roi, un seul chef, dans un monde unifié. Et justement, Manuel, qui est l'apogée de tout ça, pour et à la fin du cycle, son emblème est la sphère armillaire, qui représente le monde entier, et qui, curieusement, est aussi le symbole de Hermès.
Je me permets d'ajouter une petite chose au passage en écoutant, c'est que tous ces rois, Diniche bien sûr, mais Pedro le Cruel, Pierre, et puis d'autres, étaient tous membres du tiers ordre de Saint-François. Et ce tiers ordre est important parce que dans la prédication joachimite, l'univers du Saint-Esprit, enfin le Saint-Esprit, tout le monde serait moine. Saint-François permettait aux gens mariés, avec le tiers ordre, les hommes et les femmes, Saint-François d'Assise, aux gens mariés d'être moines.
C'est dans ce sens d'ailleurs que j'avais dit qu'ils étaient des franciscains. Ils ne pouvaient pas être des moines franciscains. Il n'y avait pas le tiers-ordre. Bien, quand on arrive à la dynastie, à la deuxième dynastie, c'est celle d'Avis, nous allons trouver ce nouveau emboîtement très intéressant qui lie la maison d'Avis à la maison de Bourgogne, encore une fois, hein, avec la Bourgogne, pour beaucoup de choses dans l'histoire des Pays-Bas. Cet enlacement est scellé par un grand mariage, le mariage de la fille de Jean Ier, Isabelle, et se marie à Philippe le Bon. Ce mariage marque la création de l'ordre de la Toison d'Or, justement créé à l'occasion de ce mariage. C'est donc une sorte de saut, cette alliance entre deux maisons.
Alors, c'est un ordre qui aurait pu être défini selon quel type de charte, par exemple.
C'est un ordre chevalerie, constitué par 24 chevaliers sans tâche, proches, et qui continue en quelque sorte l'idéal des Templiers, n'est-ce pas? C'est vraiment un idéal gibelin dans la tradition ancienne, la chevalerie spirituelle, et dans un monde où ces ordres, d'abord l'ordre du Temple a été détruit en France, il y a toute une décadence de ces ordres, et c'est peut-être une alliance mystérieuse entre la raison de l'ascendance populaire et la Bourgogne pour essayer de constituer un dernier bastion de cette espèce de chevalerie qu'on fait.
Oui, nous sommes au début du XVe siècle.
Oui, voilà. Et alors, Avis et Bourgogne sont tellement liés que quand la Bourgogne tombe, n'est-ce pas, est détruite à la bataille de Nancy, c'est très curieux de savoir Alphonse V, qu'on appelle l'Africain, qui s'est battu. Qui fut très probablement lui qui commanda le fameux panneau de Charles, de Charles de la Terre, qui est donc cousin du roi du Portugal. Et le roi du Portugal vient en France, va parler au roi de France, il va parler avec le Bourgogne pour essayer de sauver la Bourgogne. Et quelques jours avant la bataille de Nancy, il y a un entretien mystérieux qu'on sait qu'ils sont retrouvés pendant des heures, je ne sais pas. Et Charles de Marais est tué, et le roi de Portugal renonce au trône. une crise terrible. C'est un cours de guerre et c'est plus aussi une main de garder la couronne et à contre-cœur, on peut faire un peu. Et pour la main, c'est quand on parlait de Sintra, il brille au Saint-Esprit, justement dans une époque de crise terrible, un monde nouveau s'annonçait et la Bourgogne tombait et un peu plus tard, après Manuel, le Portugal aussi, l'idéal au Portugal aussi disparaissait, tout au moins de la surface de l'histoire, mais non pas de l'imaginaire. Je voulais aussi citer Sébastien, après Manuel, cette chevalerie, cet esprit de chevalerie, qui est devenu exacerbé et en quelque sorte mythifié, et même littéralisé, si on peut dire, l'idéologisme. Bon, il est un jeune roi qui conçoit le plan de réaffirmer la domination portugaise sur les côtes de l'Afrique.
C'était quand ça?
Nous sommes déjà au milieu du XVIe siècle.
Oui.
Et il est très jeune, il est très courageux, un peu fou. Non? Et il conçoit ce plan grandiose de prendre la vie de tous les conseillers, les présidents, tous les jeunes nobles qui laissent partie une tranche dans le pouvoir s'il y avait une victoire. Et il part en Afrique du Nord avec l'armée, une immense armée, de soldats africains aussi, soldats qui ont été engagés en Espagne. Il part pour un énorme désastre, c'était une défaite colossale, et le roi est disparu.
Alcacer,
c'est la fameuse appel. Il y a lieu en 1578, qui a été annoncé par une comète. Alors, les Espagnols ont pris le Portugal deux ans après, mais 1580, ils entrent au Portugal, il n'y avait plus de résistance, et les gens attendaient toujours ce roi qui viendrait d'Afrique. Donc, c'est créé ce qu'on appelle le sébastianisme. Ce fond, en quelque sorte, avec l'annonce du Cinquième Empire, d'un rétablissement, d'un retour.
Le roi Sébastien étant, par sa jeunesse aussi, par cette apparition tragique, sa vérité, rester dans le peuple et le cacher et le désirer. Le temps
caché,
désiré.
Incouvert.
Rejoignant ce thème du roi caché et le roi
caché.
Un autre thème, puisque j'avais joué.
C'était le culte du Saint-Esprit. Un vol de mille colombes dans l'imaginaire portugais par Emmanuel Drian avec la participation de José Maria Lima de Freitas et Gilbert Durand. Demain, l'imagination de l'océan.